DW, l'arbre à palabre.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission Arbre à Palabre. L'alerte est sans cesse répétée, le Sahel représente une urgence humanitaire sans précédent. L'Union européenne, l'ONU, les organisations non gouvernementales et les États de la région du Sahel plaident pour des actions rapides pour sauver des vies. Des millions de personnes ont besoin d'aide ou sont déplacées à cause des groupes armés et les conflits intercommunautaires. Une situation alarmante qui provoque des questions sur la présence réelle de la force conjointe du G5 Sahel. Pour les États, il est question de coordonner les efforts militaires avec les actions de développement et la création de l'Alliance Sahel en 2017 est justement pour appuyer les efforts de développement. Quel bilan peut-on faire à ce jour? Est-ce que les populations ressentent vraiment ces milliards dont elles entendent souvent parler? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir ici en studio à Bonn Mamman Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel, ex-diplomate et homme politique nigérien. Monsieur Sidikou, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc Gravellini, responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, groupe de partenaires pour accompagner le développement des pays du G5 Sahel. C'est bien ça, l'Alliance Sahel, monsieur Gravellini.
C'est ça, exactement, oui.
Merci. Bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir ici en studio. Et monsieur Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Monsieur Losada, merci.
Merci, bonjour. C'est un plaisir d'être ici.
Nous remercions nos auditeurs qui sont fidèles à cette émission et qui sont déjà à l'écoute au micro Fréjus Kenom.
DW.
Deux ans après la création de l'Alliance Sahel, une évaluation de son impact sur la situation dans les pays du Sahel concernés par ce programme est peut-être nécessaire. Mais d'abord, on commence par vous demander, vous, Mamman Sidikou, quelle appréciation, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans la région du Sahel avec les attaques terroristes qui se multiplient et une nouvelle phase, on dirait, qui commence maintenant avec des affrontements intercommunautaires et des attaques contre des personnes à la base de leur appartenance religieuse. Alors, est-ce que vous êtes inquiété de cette situation explosive?
Je suis inquiet, comme nos dirigeants, comme toutes nos populations. Nous sommes dans une phase assez difficile, c'est vrai. Mais en même temps, moi qui ai fait d'autres terrains d'opération dans le monde, y compris la Somalie, l'Afghanistan, je ne suis pas surpris. Il faut qu'on comprenne tous que nous sommes dans une guerre que nous n'avons pas demandée, qui a ses origines pour la région avec la destruction du régime de Kadhafi en Libye. Nous ne cessons jamais de l'évoquer. Il y a le problème que nous avons au Nord-Mali. Tant que nous n'aurons pas réglé ce problème de la Libye, la question du Nord-Mali, je crois que nous faisons des illusions si nous pensons que nous allons régler le problème de notre sous-région sur le plan sécuritaire. Cela dit, il y a des situations aussi qui ont été vécues dans d'autres régions du monde qui ont été réglées avec une coalition, internationale. Et je voudrais être un peu polémique en disant que nous aurions souhaité avoir le même type de coalition pour le Sahel. Mais je pense aussi que tout ça est une affaire africaine qu'il faudra régler au niveau de l'Afrique. Que fait la force conjointe du Sahel? Vous savez, entre janvier et juin, elle a eu opérations, y compris des opérations d'action civilo-militaire et d'assistance médicale aux populations pour renforcer la confiance et faire en sorte que tous les acteurs dans nos trois secteurs d'opération, parce que la force conjointe opère sur les frontières, c'est-à-dire entre le Tchad et le Niger, entre le Niger, le Mali et le Burkina, entre le Mali et la Mauritanie, nous avons eu 8 opérations en 6 mois. Il faut plus d'actions sur le terrain, des actions plus décisives pour que la force conjointe puisse mieux marquer notre volonté de neutraliser puis anéantir les groupes armés terroristes. Et au passage, je voudrais vraiment saluer le courage, la mémoire de soldats que nous perdons tous les jours. Ce sont eux la ligne de front première. Contre ces groupes-là. Ce sera, et c'est ça mon mot réellement, ce sera détermination contre détermination. Lorsque j'étais en Somalie, nous avions bien compris que vous ne pouvez pas laisser de répit aux groupes armés et aux terroristes. Il faut les chercher, il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers vous.
Il ne faut pas être sur la défensive tout le temps, il faut aller les chercher.
Absolument, absolument.
Ce qui n'est pas le cas actuellement.
Maintenant, évidemment, il y a toutes les questions d'opérationnalisation réelle de la force conjointe. Je suppose que ça aussi, c'est une des questions qui va venir.
On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Angel Losada, je rappelle que vous êtes le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Vous êtes, entre autres, à la médiation, surtout en ce qui concerne l'accord de paix d'Alger. Mamman Sidikou expliquait tout à l'heure que tout a commencé avec la Libye, la déstabilisation de la Libye. Est-ce que vous partagez d'abord cette même analyse? Parce que vous êtes des partenaires occidentaux. Voilà ce qu'a dit monsieur Mamman Sidikou.
Bien sûr, il ne fait aucun doute que la question libyenne a été fondamentale, mais aujourd'hui a joué un rôle fondamental dans, dans tout le processus. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas la première rébellion Touareg qu'il y a eu. Il y a plusieurs rébellions Touareg auparavant. Par contre, j'ai une phrase que je répète assez souvent, que je dis, on n'aura pas de paix au Sahel si on n'a pas de paix au Mali. Donc l'un des éléments essentiels aujourd'hui qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est faire avancer, mettre en œuvre l'accord de paix. L'accord de paix est un point essentiel. D'ailleurs, il y a un nouveau gouvernement aujourd'hui au Mali, un nouveau gouvernement qui a une volonté d'inclusivité et qui a une volonté d'accélérer cette mise en marche.
Ça fait quatre ans que cet accord existe.
J'ai toujours également une phrase pour cet accord. Il ne va certainement pas aussi vite que nous le souhaitons, mais peut-être pas aussi doucement que nous le craignons. La deuxième question, c'est une question du DDR accéléré, c'est-à-dire de la démobilisation, du désarmement et de la réhabilitation, de la réintégration, pour la conformation de ce qu'on appelle l'armée reconstituée avec les mouvements armés qui aujourd'hui sont autour de la même table pour discuter ensemble une fois par mois. Ce DDR est un élément essentiel. Et le troisième, c'est également la question du financement pour tous les projets du Nord. Je me permets de rappeler que l'Union européenne a été la première à établir une stratégie pour le Sahel qui se fonde sur deux piliers qui aujourd'hui sont repris partout, spécialement et encore avec beaucoup de vigueur par le G5. Sécurité et développement vont de pair. Il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et de là, l'Union européenne a énormément contribué, je crois, dans le secteur de la sécurité en convoquant une conférence à Bruxelles pour le financement de la force conjointe et dans le secteur développement également en aidant à l'organisation de la conférence pour le programme d'investissement prioritaire du G5 où on a approuvé les PDU et ça je laisserai certainement la parole à M. Gravellini, oui. Où l'Alliance Sahel a joué un rôle important également, une valeur ajoutée sans aucun doute avec les programmes de développement d'urgence que les populations doivent ressentir le plus tôt possible.
En tout cas, c'est ce qu'elles espèrent les populations qui ne cesse de poser des questions. On entend parler d'investissements de milliards encore en 2018, décembre à Nouakchott. Il y a été question de beaucoup de milliards de projets dont les gens ont entendu parler. Mais M. Gravellini, est-ce qu'on peut croire à ces projets de développement? Rien ne se passe, on dirait, sur le terrain.
Alors, c'est vrai qu'avant même l'Alliance, il y a beaucoup de financements qui ont été annoncés pour ces régions-là. Encore récemment, à l'occasion donc, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État en décembre dernier à Nouakchott, des annonces ont été faites par plusieurs partenaires, dont ceux de l'Alliance. L'objectif est réellement de faire en sorte que cette aide soit à la fois plus efficace et surtout, vous avez raison, soit visible, compréhensible, par les populations.
Mais qu'est-ce qui empêche
Alors déjà, quand on recense les projets qui se réalisent aujourd'hui, avant même que l'Alliance ait été créée et depuis qu'elle est créée, il y a des réalisations sur le terrain, une des zones sensibles. Maman Sidikou pourra l'expliquer tout à l'heure, la région des trois frontières, à la frontière du Mali, du Niger et du Burkina. Si on prend la région de Tawa-Tillabéri, qui est une zone sensible au Niger, à travers des différents programmes portés par les membres de l'Alliance, on l'a recensé, ce sont des centaines de points d'eau qui sont en réalisés aujourd'hui, qui sont en cours de réalisation avec les autorités nigériennes, bien évidemment. Je pense à un grand projet nigérien qui s'appelle le PROSDEA et qui permet la réalisation de points d'eau. On peut citer également des exemples dans la région centre au Mali. On parle beaucoup actuellement, malheureusement, dans l'actualité de la zone de Koro, dans le cercle de Koro, qui est une zone de conflit avec... il y a, et on pourrait le montrer, des adductions d'eau qui sont réalisées sur les financements des membres de l'Alliance avec... pour des populations, un accès plus facile à l'eau potable. Il y a des actions qui sont conduites également aujourd'hui pour faire en sorte que tous ces conflits entre les différentes communautés soient mieux compris, mieux documentés, mieux analysés pour pouvoir atténuer ces conflits.
Mais comment fait-on pour mettre en place toutes ces choses-là, les points d'eau notamment, quand on sait que c'est les régions qui sont surtout en proie à l'insécurité aujourd'hui?
Alors ça nécessite en effet, pour réaliser les opérations, les bailleurs de fonds et les autorités de ces pays ont fait évoluer leurs pratiques, leur mode de faire. Et pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, on s'appuie de plus en plus sur des acteurs de terrain que sont la société civile, les associations, les ONG, ONG nationales, ONG locales, souvent qui travaillent en partenariat avec des grandes ONG internationales. Même dans ces zones-là, aujourd'hui, il y a, on l'a recensé, des opérations qui sont conduites par ces ONG, une ONG humanitaire, pour le compte des bailleurs de fonds, avec des réalisations. Donc il y a des solutions. Il faut évidemment aussi se coordonner avec les forces de sécurité. Je pense notamment à la sécurité intérieure, faire en sorte effectivement que ces opérations puissent se réaliser autant que faire se peut, avec des conditions de sécurité évidemment satisfaisantes. Mais vous avez raison, le défi, c'est aujourd'hui faire en sorte que les populations puissent mesurer très vite des réalisations sur le terrain.
Je voudrais rebondir là-dessus, si vous permettez.
Maman Sédico.
Oui. Je prends un exemple ici au Burkina Faso. Il y a une zone où nous intervenons qui s'appelle Bambakari, où nous n'avons pas accès en ce moment, ou accès limité. Il est évident qu'il faut que nos forces, la force conjointe en coordination avec les forces nationales, sécurisent ces endroits pour que l'action de développement puisse prendre corps. Évidemment, en ce qui concerne la force conjointe, nous avons aussi des questions d'équipement qui ont traîné, qui sont en train maintenant d'arriver. Nous avons même des approches nouvelles avec d'autres partenaires comme la Chine qui, à travers l'Union africaine, va nous fournir des équipements de façon plus rapide et plus efficace. Nous sommes en relation avec la Turquie qui est en train de nous aider en équipement, qui a versé des fonds dans notre fonds fiduciaire à nous pour que nous allions acheter ces armes-là.
Est-ce que ces acteurs sont dans l'Alliance Sahel?
Non, l'Alliance Sahel, M. Gavini vous dira que ce sont 12 États membres plus des organisations internationales. Ils ne sont pas. Mais nous, au G5 Sahel, nous avons notre partenaire stratégique, l'Alliance Sahel, mais nous avons d'autres partenaires aussi importants. J'ai cité la Chine, j'ai cité
la Turquie,
mais citons aussi l'Union africaine. Je disais tantôt que ceci est une affaire africaine avant d'être autre chose. Il faut que l'Afrique s'engage, prenne en charge les questions qui se posent au niveau de l'espace sahélien, de l'espace G5 sahélien.
Mais on constate, M. Maman Sidikou, que ça piétine. On entend très peu de choses de l'apport budgétaire, de l'effort financier des États membres. Hein. Ce n'est pas ça.
Non, je suis désolé, il ne faut pas être aussi catégorique. Le Rwanda est le premier pays à agir, suivi de la CEDEAO, suivi de l'UEMOA, qui ont versé des fonds pour la force conjointe des Sahel.
Monsieur Lossada confirme.
Je confirme effectivement, et je confirme également que, par exemple, l'Union européenne a tout de suite engagé 100 millions d'euros, dont 80% ont été déboursés et sont en train maintenant de fournir les équipements nécessaires. 80% des 100 millions, et certainement, nous allons vers ce que nous voulons, avoir une pérennité du financement de cette force. Ces fonds ont été débloqués.
Débloqués en espèces.
Mais les fonds débloqués pour acheter des équipements. Les équipements sont en train de parvenir. Il y a également le paiement des PERDIEM. L'Union européenne paye les PERDIEM du PCAT, c'est-à-dire du commandement conjoint. Des officiers qui sont justement là, ils les payent régulièrement. Des gilets anti-balles ont déjà été donnés. C'est-à-dire 80% de cet argent a été engagé directement.
Excusez-moi, Monsieur Lossada, on apprend que, au sein même de ces États partenaires, il y a une guerre qui va livrer, parce que si la France vend des armes, si la France participe à ces 100 millions dont vous parlez, la France aimerait bien être le pays qui livre aussi.
Je crois que c'est un effort conjoint. C'est un effort conjoint de tous.
Il y a une guerre entre partenaires qui va livrer quoi ?
Non. Je crois que c'est un effort conjoint de tous. Ce qu'il faut, c'est que non seulement on livre ces équipements, mais c'est que ces équipements soient adaptés. Acheter des équipements militaires, ce n'est pas aller à un supermarché et choisir sur une étagère. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent que ça. Et je comprends l'impatience des dirigeants militaires de la force conjointe. Et d'ailleurs, on essaye d'accélérer tout ce processus. Mais il n'y a pas de confrontation entre nous. Au contraire, nous travaillons de plus en plus ensemble dans cet esprit-là.
Voilà. Donc il n'y a pas de confrontation, dites-vous. Et le partenariat fonctionne, sauf qu'on a du mal à le ressentir sur le terrain. Et surtout, ce qui se passe avec les nombreuses attaques qui se répètent, les populations s'enfuient. Celles qui sont les destinataires de ces actions de développement ne sont pas sur place, ou quelle est la situation, Maman Sidikou, expliquez-nous.
Non, on a des mouvements de population, c'est évident. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous votez avec vos pieds. Vous, à leur place, feriez la même chose. On a donc des déplacements de population, il est évident en Centre-Mali, il est évident au Nord-Burkina, il est évident aussi dans les zones du nord du Niger. La question de fond aujourd'hui, c'est de savoir comment nous stoppons cela. Je pense qu'il y a un travail de fond rapide à faire au niveau de ce que nous appelons notre fuseau centre, c'est-à-dire les frontières Niger-Mali-Burkina. Il faut que la coordination soit plus grande entre nos forces armées et la force conjointe pour bloquer cette métastase à laquelle nous sommes en train d'assister.
Mais pourquoi ne pas penser à déployer le G5 Sahel, la force conjointe, je veux dire, dans le nord du Mali, si on reconnaît que c'est l'épicentre
Parce que il faut voir le mandat de la force conjointe du G5 Sahel. C'est sur les frontières entre ces pays-là. C'est très précis.
Les États peuvent modifier. Ce sont les États qui ont pris la décision.
Ça, ce sera au niveau des chefs d'État. On verra bien.
Mais c'est une suggestion, par exemple, pour vous
Non, ça, vous la faites la suggestion, vous. Moi, je m'en tiens au mandat. Je sais une chose, c'est que le concept d'opération de la force conjointe devra être revu pour être adapté au type de guerre asymétrique de façon plus claire. Mais ça, je laisse ça aux spécialistes militaires pour s'en occuper. Mais ce que je voulais dire, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Angel Osada concernant le soutien de l'Union européenne, nul. Personne ne doute du soutien stratégique que nous donne l'Union européenne. Nous avons eu des retards dus à des délais de contractualisation pour faire fabriquer des armes. Il faut des contrats. Et pour qu'il y ait des contrats, il faut que l'argent soit rentré dans les fonds, effectivement. Il y a deux volets. Il y a ce que nous appelons, nous, notre fonds fiduciaire du G5 Sahel qui a été créé, qui a Nouakchott. Qui a reçu des fonds d'un certain nombre de partenaires, y compris les Émirats Arabes Unis, le Rwanda, l'UMOA, la CEDEAO, etc. Il y a le fonds fiduciaire et il y a le fonds européen. Ils ont effectivement fourni, et je viens de voir le dernier relevé de ce qui doit nous arriver incessamment, beaucoup de matériel, sauf les blindés qui avaient été promis à l'époque. C'est un peu plus lourd, qui prendront du temps. Et je crois que c'est la première livraison pour un des pays, ce sera en novembre 2018.
Il faut combien de temps pour ce genre de choses
Enfin, c'est juste pour
qui a l'information, monsieur Losada. Il faut combien de temps, en fait, concrètement?
Mais ça dépend bien sûr des équipements. Vous n'avez pas livré des équipements qui sont aptes pour la Sibérie, pour la région du Sahel. Ça veut dire qu'il faut adapter les équipements. Et ce n'est pas la même chose donner en blindé qu'il faut construire et adapter à la région que, par exemple, des gilets pare-balles qui ont pu être fournis bien intérieurement. Mais je voudrais reprendre un sujet, si vous permettez.
Oui, rapidement,
très rapidement. La menace que l'on avait avec le processus de paix au nord, au Mali, était une menace relativement assez claire. Aujourd'hui, l'aspect intracommunautaire ou intercommunautaire est en train de faire une menace beaucoup plus complexe. Et il faut bien analyser si les moyens déployés que l'on a actuellement, et la force conjointe entre autres, dont une des missions est non seulement de lutter contre les trafics, de lutter contre le terrorisme, mais également de contribuer au développement, de contribuer à l'aide humanitaire, de rétablir la présence de l'État. Tout ça, c'est dans son mandat, mais c'est une force de 5000 hommes pour 5 millions de kilomètres carrés, si on ne prend pas en compte des fuseaux. Donc vous voyez que quand même, c'est très limité. Mais il faut bien analyser si ceci est suffisant. Et je crois qu'un élément fondamental, c'est le renforcement des capacités intérieures, de sécurité intérieure de chaque État, surtout pour faire face à cette nouvelle menace intracommunautaire qui est très dangereuse et qui est un vrai cancer qui peut déstabiliser toute la zone. Et je pense énormément là au Burkina aujourd'hui qui est en train de vivre une situation très compliquée.
Vous avez évoqué la situation dans le centre, les conflits intercommunautaires, mais est-ce qu'on sait déjà ce qui se passe réellement, monsieur Jean-Marc Gravellini? Comprenez ce qui se passe dans le centre du Mali? S'agit-il d'attaques djihadistes? S'agit-il d'attaques purement intercommunautaire?
Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question-là, mais je pense que tout ça est un petit peu mêlé quand même. C'est clair qu'il y a des attaques djihadistes, c'est indéniable. Moi, j'ai travaillé au Tchad il y a 25 ans, c'était un sujet déjà très prégnant. Et évidemment, quand on n'a pas l'État qui est là pour gérer, anticiper, atténuer ces conflits, eh bien évidemment, ils se développent. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui, évidemment, les djihadistes dans cette campagne de déstabilisation.
On est face actuellement à une certaine escalade. Il y a des pays dont on n'entendait pas parler qui commencent à être cités. Le Togo, par exemple, le nord du Togo, le nord du Bénin, le Ghana. Est-ce que l'alliance Sahel, qui était concentrée sur les 5 pays du G5 Sahel, est-ce que l'Alliance va étendre ses actions? Est-ce que c'est un défi pour vous?
Alors, je crois qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est qu'aujourd'hui, l'Alliance, sa vocation, c'est de travailler avec le G5 face à la situation qui prévaut malheureusement aujourd'hui au G5. Après, évidemment, quand on parle d'élevage ou quand on parle de développement des activités économiques, il est évident que les marchés aujourd'hui, pour les débouchés, pour la production agricole, les productions animales, c'est les pays voisins, c'est le Sénégal, c'est le Nord, c'est la Côte d'Ivoire, etc. Donc il y a forcément une dimension régionale, mais que le G5 prend également en compte dans ses relations avec la CEDEAO, avec l'UMOA. Donc évidemment, il y a une réflexion du point de vue du développement qui va au-delà du G5, mais notre mandat, c'est effectivement de nous coordonner, d'être plus efficaces, d'être plus rapides, d'avoir des résultats visibles pour les populations du G5.
Maman Sidikou, est-ce que vous croyez qu'il faut peut-être réadapter cette stratégie?
Écoutez, Kenon, votre question, M. Gravelini, avait une dimension aussi sécuritaire. Il est évident que tout ce qui touche au Burkina, touche au Ghana, à la Côte d'Ivoire, tout ce qui touche au Mali, touche aussi à la Côte d'Ivoire. De proche en proche, tout l'ensemble, aujourd'hui et moi, qui est affecté. Il y a des consultations régulières, très intenses. Il faut des échanges d'informations systématiques, que ces pays côtiers, parce que c'est ça qu'il s'agit, et nous ayons des relations plus suivies sur les stratégies, pour une réponse commune, parce que, comme je disais tantôt, c'est une affaire africaine. C'est en fait tout un pan de l'Afrique qui risque de basculer. Et je le dis vraiment en connaissance de cause, parce que j'ai vu ça arriver ailleurs. Le Kenya ne s'attendait pas à ce qui se passait en Somalie bascule sur eux, ça basculait sur eux, etc., etc.
Mais il y a les frontières, et apparemment chaque État tient à ses frontières.
Les États sont beaucoup plus intelligents que ça. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de contact entre ces pays, parce que certains ne sont pas au G5 Sahel de façon formelle, parce qu'on a d'autres structures qui nous réunissent. Trois pays parmi les cinq sont de la CEDEAO. Forcément, nous sommes aussi partie prenante dans tout ce qui est structure, architecture sécuritaire de la CEDEAO. Là, je viens d'Abuja comme ça. Nous avions, avec le Munich Security Center, une conférence sur ces questions. Il y a une concertation permanente et des échanges d'informations.
Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de terminer, un tour de table quand même, Monsieur Angel Losada. On voit qu'effectivement, il y a très peu de choses concrètes quand même sur le terrain. Les populations en parlent. Nous recevons beaucoup de questions depuis notre zone de diffusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent en ce moment?
Écoutez, vous l'avez dit, l'une des questions fondamentales, c'est le manque de la présence de l'État. D'ailleurs, je dis souvent cela, c'est que le vide de l'État, c'est l'oxygène du terrorisme. C'est vrai, nous sommes face à une situation compliquée, mais malgré tout, la communauté internationale est absolument engagée dans un partenariat stratégique avec le Sahel. Et indiscutablement, pour ce qui est le nord du Mali, la situation a évolué.
Sachant qu'il y a toujours la question du Kidal, hein, l'armée malienne voudrait bien prendre pied à Kidal, mais est empêchée. Il y a une contradiction.
Mais bien sûr, mais d'ailleurs, ce qu'il faut absolument, c'est restructurer tous les secteurs de sécurité pour renforcer les capacités de cette armée et dans le contexte du processus de paix pour obtenir cette armée reconstituée avec les deux mouvements, plateforme et CMA et les FAMA. Et ça, c'est un peu la clé de voûte de toute cette situation.
Merci beaucoup. Maman Sidikou, votre dernier mot. Le financement du G5 Sahel que vous souhaitez qu'il soit permanent, finalement, ce dossier, ça s'enlise, les pays.
Non, je pense qu'il y a une évolution dans les discussions. Certains préfèrent faire de l'appui direct bilatéral, comme les États-Unis. Mais nous savons tous que ce débat prend du temps, mais on finit par trouver des formules. Nous avons un soutien fort du secrétaire général des Nations Unies. Chacun de nos pays est déterminé à arriver à cela. Nous allons continuer ce combat-là. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Je veux dire que si notre problème à nous, réellement, au fond, à nous, G5 Sahel et partenaires, c'est qu'il faut absolument éviter que la désespérance s'installe au sein de nos populations et de la jeunesse.
Mais pour il faut agir vite.
Vite, et c'est pour ça que nous avons eu la réunion que nous avons eue à Bouane avec l'Alliance Sahel. C'est qu'il faut que d'ici la fin de l'année 2019, de façon concrète, il y ait des résultats. Il ne faut pas faire croire aux gens que tous les problèmes vont être résolus en un an, deux ans. Il faut inscrire aussi notre action dans la durée, dans le développement. Et c'est pour ça que le développement et la sécurité vont de pair.
Monsieur Jean-Marc Gravelini, nous sommes au terme de cette émission. Et Maman Sidikou disait tout à l'heure, à l'adresse de ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'il leur faudrait voir des choses concrètes d'ici la fin de cette année. Comme choses concrètes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Écoutez, d'ici la fin de cette année, on a une commande qui a été passée il y a un an par les chefs d'État du G5, qui a été passée auprès du secrétariat permanent du G5, de réaliser des projets d'urgence dans les zones, alors avec trois caractéristiques, les zones frontières, les zones où il y a des enjeux sécuritaires majeurs, une thématique précise, l'accès à l'eau, et atténuer les conflits, comprendre et atténuer les conflits. Donc ces trois thématiques-là caractérise le programme d'urgence. Que d'ici la fin de l'année, on soit en mesure de montrer que des choses se sont passées sur le terrain, que
des écoles ont été rouvertes.
Peut-être, alors c'est pas la thématique, mais enfin, oui. C'est une thématique importante, que les écoles éventuellement soient réouvertes. On n'est pas dans le PDU, mais c'est un point effectivement important. Que des opportunités de création d'activités, de relance d'activités économiques soient faites. Et donc ça, c'est notre défi, c'est de pouvoir faire ces opérations qui seront très ponctuelles, très localisées. Comme disait Maman Sidikou à l'instant, finalement montrer que des choses se passent et finalement permettre le retour à une certaine forme d'espoir en l'avenir. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. Donc c'est notre défi pour les prochains mois.
Merci beaucoup. C'est sur ces propos que nous mettons un point final à cette émission. Abrapalabre, qui s'intéressait au partenariat entre le G5 Sahel et l'Alliance Sahel. Nous étions dans ce studio avec Jean-Marc Gravellini, responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, Angel Losada, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, et bien sûr Maman Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Merci à tous d'avoir été dans ce studio et à bientôt pour un autre numéro de L'Arbre à Palabre.